lisons la lettre de Jacques, il y avait tellement de choses pratiques. Et nous avons vu dimanche dernier que pour supporter la souffrance avec patience et persévérance dans les temps difficiles que nous vivons, attentat, la persécution se multiplie. Il y a tant de choses qui se voient et qui peuvent faire bien peur. Mais la manière que Jacques nous propose de supporter avec patience et persévérance la souffrance, il y avait quatre choses. Il nous avait tellement rappelé que Jésus-Christ revient de quoi nous remplir d'espérance et de joie, malgré les circonstances. La deuxième chose, c'est ben, ça découle du premier. Dieu récompensera. Et donc, faisons attention à nos paroles et nos actes, à la qualité de nos paroles et nos actes, parce que Dieu regardera et relève le bien que nous faisons. La troisième chose, là, c'est la vie avec Dieu faite de souffrance. Donc, c'est comme si Jacques nous disait, ne soyez pas surpris par les temps difficiles. Et quatrièmement, Dieu est plein de bonté et de compassion. Et donc, il nous invite à nous rappeler, dans les temps difficiles, même si peut-être face à ce que vous vivez, vous vous dites, mais Dieu, c'est pas possible, là, il ne peut pas être plein d'amour. Si, il est plein d'amour, il reste Dieu, plein d'amour, de compassion. Et nous avons vu que dans les circonstances difficiles, Dieu donne la paix. Dans les moments difficiles, Dieu donne sa paix. Une paix qui surpasse tout ce que nous pouvons imaginer. Mais quand on est face à ces quatre points de dimanche dernier de notre cher Jacques, on dit, ok, Jacques, tu dis, c'est ce que Jacques a dit. Mais là, nous rappeler dans les temps difficiles juste un tas de vérité, c'est bien, mais c'est insuffisant pour moi. Me rappeler tout cela, c'est bien, mais je souffre là. Je dois me rappeler que tout cela, Christ revient, etc. Oui, ça m'aide d'une certaine manière, mais j'ai besoin de l'action de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de le voir agir au sein de ma souffrance. Et Jacques dit quelque chose de vraiment fort juste après. Il finit sa lettre en parlant de la prière. Nous voulons voir l'action de Dieu dans notre vie. Prions. Et donc Jacques commence en disant ceci. Chapitre 5, verset 13. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Un autre est-il dans la joie qu'il chante des louanges? Nous commençons par le premier point. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Jacques s'adresse à des croyants qui souffrent parce qu'ils sont persécutés, exploités, maltraités. La prière est ici comme l'antidote, entre guillemets, aux afflictions parce que Dieu est plein de bonté et de compassion. Quand Jacques encourage ceux qui souffrent à prier, ce n'est pas la petite chose facile comme cela. On peut penser à quelqu'un, par exemple, qui passe par la souffrance et on le voit qui est vraiment dans une grosse difficulté. On vient vers lui, on lui dit, tu souffres, prie. C'est pas très encourageant à entendre tout de suite comme cela. Et pourtant, c'est ce qui est dit ici. Mais c'est beaucoup plus fort que simplement prie. C'est dans la souffrance, on sait très bien, et je pense que plusieurs ont expérimenté cela, peut-être que vous êtes en train de vivre des souffrances, vous êtes dans des temps de souffrance. Il arrive qu'on arrive, qu'on a du mal à prier, qu'on diminue nos prières. Et Jacques est en fait en train de dire, pas juste vous, ceux qui souffrent, priez, mais plutôt qu'ils continuent à prier, qu'ils ne lâchent pas la prière, ne lâchent pas la prière. Dans le sens, attends-toi à Dieu. Attends-toi à l'action de Dieu dans ta vie. On ne parle pas juste de prier pour prier. On parle de prier parce qu'on s'attend à l'action de Dieu dans notre souffrance. C'est ça qui est en train de dire. Tu souffres, attends-toi encore à Dieu. Continue à faire confiance à Dieu. Dieu va agir dans ta souffrance, mais il faut que tu sois dans sa présence. Prie. N'arrête pas de prier. N'arrête pas. Deuxième point. Est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Étant dans un contexte où il y a persécution,
quand il parle de la joie, certainement, Jacques parle de ceux qui arrivent à expérimenter la joie dans l'épreuve, dans leur souffrance. Il leur dit, vous arrivez à expérimenter la joie malgré les souffrances, parce que peut-être, vous, certainement, vous êtes dans l'espérance de savoir que Christ revient. Vous continuez à compter sur le Seigneur. Mais vous aussi, restez dans la prière. Restez dans la présence de Dieu. Maintenez-vous dans la joie en Dieu. Comment ? Chantez. Chantez. J'avais lu un livre sur les chrétiens persécutés, sur les témoignages de chrétiens persécutés, et j'étais particulièrement touché par une chose que plusieurs ont dit. Au sein de la difficulté, ce qui nous aidait le plus, c'était de chanter les louanges de Dieu. Ont expérimenté cela. J'ai expérimenté cela une fois où j'étais totalement découragé. Vraiment très découragé. Et l'Esprit de Dieu me donne des chants. Je me mets à les chanter. Dans mon impasse, dans ma souffrance, je me mets à chanter malgré tout. C'était incroyable. Je marchais de la maison à mon bureau ici. J'étais totalement découragé. Quand je suis arrivé ici, j'étais un autre homme. Dieu avait par le chant. Si tu es dans la joie, chante. Si tu expérimentes la joie malgré les souffrances, chante. Cela ne veut pas dire que si ça ne va pas, il ne faut pas chanter. Mais là, Jacques se concentre sur ceux qui souffrent, qui prient, ceux qui sont dans la joie, qui louent le Seigneur, qui soient dans la louange, dans le chant. Troisièmement, priez. Demandez la prière aux responsables. L'un de vous est-il malade qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui. Après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur, la prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Donc j'ai lu les versets 14 à 15. Jacques, maintenant, on va dire, s'adresse à deux types de personnes. Quand on voit le texte ici, on pourrait penser juste les malades. Mais on peut traduire la chose de deux manières à cause du mot grec et à cause du contexte. Donc Jacques, ici, s'adresse, en premier lieu, à ceux qui sont faibles dans leur foi, mais effondrés sous le poids de la persécution, qui n'arrivent plus du tout à prier, qui ont perdu espoir, qui sont totalement écrasés, totalement dans le découragement. Il leur dit, vous, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Vous n'arrivez plus à prier. Vous êtes totalement découragé. Ne restez pas seul dans votre souffrance. Faites appel aux responsables de l'Église qui prieront avec vous, qui vous soutiendront dans votre souffrance. Et ça laisse aussi à ceux qui sont malades physiquement, peut-être même mourants et ne pouvant peut-être même pas se rendre à un rassemblement, comme nous rassemblons chaque dimanche, ou mercredi, ou dans la semaine. Ces personnes ont besoin, elles aussi, de faire appel aux responsables de l'Église pour être guéries. Et leur dire de ne pas rester seuls dans leur souffrance. Les responsables doivent mettre de l'huile sur le souffrant et prier. On sait que l'huile, à l'époque de Jacques, était une forme de médicament. On dit qu'on frottait ou on massait le malade avec de l'huile. Prendre l'huile peut vouloir dire prendre soin, réconforter, affermir le croyant qui est totalement découragé dans sa souffrance pour que Dieu le relève. L'huile peut aussi être vue comme un symbole du Saint-Esprit qui seul peut agir dans la vie de celui qui souffre. Combien on a besoin du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Les responsables peuvent aussi prier tout simplement en mettant de sur le malade qui le demande pour obtenir de Dieu une guérison. Le texte n'est pas en train de dire qu'il y aura forcément guérison. Si on lit tout le Nouveau Testament, on sait très bien que ce n'est pas la pensée du Christ. Mais il nous invite à la foi dans la guérison. À la foi dans le fait que Dieu est capable de guérir, capable de relever celui qui souffre, de donner sa plaie à celui qui souffre. Il est important de ne pas mal comprendre ce que Jacques est en train de dire ici. Quand quand nous lisons le Nouveau Testament, nous remarquons, quand je parle du Nouveau Testament, c'est cette deuxième partie de la Bible qui parle avant tout de l'évangile, donc de Jésus-Christ qui vient, Dieu fait homme, qui vient sur terre, qui marche parmi nous et qui donne sa vie sur une croix afin que nos péchés, tout le mal que nous avons commis envers Dieu, soient, afin que tout cela nous soit, parce que nous soyons pardonnés de tout cela, afin que nous ayons une relation établie avec Dieu, le Créateur, et ensuite. Tout le reste du Nouveau Testament parle du retour de Christ et prépare l'Église pour ce retour glorieux. Cette deuxième partie de la Bible, quand nous la lisons, nous remarquons très vite que Dieu ne guérit pas exclusivement par les responsables de l'Église. Donc, si quelqu'un est malade, si plusieurs sont malades, ils ne vont pas courir après les responsables de l'Église, c'est pas ce que le texte dit. Nous remarquons aussi que Dieu ne guérit pas exclusivement en appliquant de l'huile. On trouve qu'une seule fois cette pratique dans le Nouveau Testament. À un moment donné, les disciples sont partis et ils ont guéri de nombreux malades en moignant d'huile. Et on sait très bien que même l'ombre, parlez l'ombre de qui, vous vous rappelez, de Pierre, pouvait guérir. Il n'y avait pas d'huile. Donc, la guérison d'un malade peut être obtenue sans huile, sans la prière des responsables d'une église. Dieu peut se servir de l'église, d'un frère, d'une sœur, pour apporter guérison. Ou tout simplement, nous, notre propre prière, pour notre propre guérison. Dieu agit aussi de cette manière. Donc, l'important ici, c'est surtout la prière de la foi. Une personne qui est totalement dans une impasse. Qui est totalement découragé, qui n'arrive plus à prier, ou une personne qui est malade au point de ne plus pouvoir se rassembler avec les croyants. On peut penser à d'autres cas. Mais l'idée ici, c'est vraiment de compter sur Dieu plutôt que compter sur les responsables, compter sur l'huile. La foi est mise en Dieu qui seul peut guérir ou relever celui qui a besoin d'être relevé. Nous devons surtout comprendre le souci de Jacques. Jacques a vraiment le souci de ceux qui ont perdu l'espoir, qui n'ont plus de force, qui sont comme bloqués spirituellement à cause de leur souffrance. Jacques les encourage à ne pas rester seuls. Et j'en ai vu certains qui sont venus vers moi ou qui sont venus vers d'autres personnes qui étaient dans une souffrance tellement intense qu'ils sont allés voir ou un responsable ou des personnes matures dans la foi pour pouvoir être relevés dans leur souffrance. Recevoir encouragement, guérison à leur prière. Jacques a aussi un souci, ceux qui sont totalement affaiblis donc, par la maladie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne pouvons peut-être plus se déplacer pour qu'ils trouvent guérison près de Dieu. Et il arrive aussi, et ça c'est dans le texte, que pendant que les responsables ou d'autres personnes aident la personne en difficulté, prenant soin, ils entendent qu'il y a péché, qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc de là, la personne, le malade, ou cette personne qui est en difficulté, doit confesser son péché à Dieu pour trouver le pardon et le rétablissement dans sa relation avec Dieu. Et enfin, la paix dont elle a besoin. Le péché dans nos vies peut bloquer notre relation avec Dieu, peut nous empêcher de vivre, d'être épanouis en Dieu. Et le péché, dans certains cas, peut maladie aussi. Il faut le savoir, dans certains cas, pas dans tous les cas. Troisièmement, priez les uns pour les autres. Jacques continue en disant, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand on regarde ce texte, c'est bizarre, mais c'est très proche de ce qui est dit par rapport aux responsables de l'Église. Il y avait la confession des péchés, on le retrouve là. Il y avait la prière, on le retrouve ici aussi. Et il parle de guérison, et on parle de guérison là aussi. Donc ce n'est pas exclusif aux responsables. Ça peut aussi être vécu tout simplement dans la relation les uns avec les autres. Ce que Jacques dit ici peut avoir deux sens. Premier sens, celui qui a blessé une personne doit confesser sa faute à cette personne, demander pardon et prier avec l'autre, dans le but de vivre une pleine réconciliation. L'autre sens, celui qui est faible dans la foi ou celui qui lutte toujours avec le même péché doit se tourner vers une autre personne, un autre croyant, mature, de confiance, pour en parler, être encouragé, prier et obtenir la victoire. Concernant le combat contre le péché, Jacques redit de ne pas être seul. Ne soyons pas seuls. Vous avez de l'amertume contre quelqu'un, ne la restez pas seul non plus. Si on vit quelque chose et qu'on est comme dans un impasse, ne restons pas seuls. Jacques nous encourage là à lutter avec d'autres personnes. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, prie pour moi. J'ai du mal dans telle ou telle situation. J'ai besoin de la prière. Et nous entendrons notre frère ou notre soeur nous encourager. Nous envoyer des SMS, nous appeler à tel moment, prier avec nous, à n'importe quel moment. Et enfin, vivre la guérison, le miracle de Dieu dans notre vie. Est-ce que nous avons des faiblesses qui nous pourrissent la vie? Avons-nous des domaines dans lesquels nous tombons tout le temps? Avons-nous perdu espoir pour une délivrance dans notre vie, dans un domaine quelconque? Jacques nous dit, arrêtons de combattre seul. Arrêtons de combattre seul. Demandons la prière. Demandons la prière. D'une manière ou d'une autre, que ce soit aux responsabilités, que ce soit à des frères ou des sœurs dans la foi qui sont matures, de confiance. Soyons dans ce combat avec les autres. Et j'aime dire ça. On n'est pas obligé de tout dire de notre combat. On peut en dire tout. Je le dis déjà souvent pour les groupes de maison dans lesquels nous vivons des moments d'encouragement mutuel. Je dis à ceux qui passent par la souffrance, vous n'avez pas besoin de dire je passe par ça et je suis en train de vivre. Et en donnant tous les détails, j'entends des personnes qui disent Manu, ça ne va pas. J'ai besoin de la prière. Commencer déjà dans un pas important et à donner un sujet, même si on ne sait pas le sujet précis. Est-ce que Dieu est limité par les sujets précis? Je ne pense pas. Il faut prier de manière précise, ça n'en est pas cela. Mais Dieu n'est pas limité par nos sujets précis. Quand il voit la souffrance, Dieu veut agir. Et donc j'entends, il est arrivé plusieurs fois aussi dans le groupe de maison dont je fais partie, où des personnes ont dit sans donner des détails, j'ai besoin de la prière pour ma famille. On ne sait pas ce qui se passe. Et on ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Dis-nous tout. Non. C'est pas une bonne chose. Nous devons nous respecter les uns les autres dans ce que nous sommes, etc. Mais voilà, si on entend un sujet, prions, tout simplement, même si c'est de manière globale. Mais entendons la souffrance et prions les uns pour les autres. Il est vrai que ça peut demander quand même de l'honnêteté, de l'humilité, de la transparence, mais nous pouvons aussi le dire de manière différente. Nous demandons la prière, ne restons pas seuls dans notre souffrance. C'est tellement précieux, j'en ai eu des gens qui ont prié pour moi. C'est tellement précieux de pouvoir avoir une personne de confiance pour être aidé dans nos combats, dans nos luttes personnelles au quotidien. Quatrièmement, prier pour ceux qui s'égarent loin de Dieu. Alors on saute dans le texte, parce que j'ai envie de donner le meilleur pour la fin. Jacques finit sa lettre en disant ceci. Mes frères, donc verset 19, et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Nous devons prier pour ceux qui s'égarent loin de Dieu. Le texte ne le dit pas directement, mais comme on est dans ce contexte de prière, je vous propose de garder ce contexte jusqu'ici. Moi, quand j'ai, très tôt dans ma relation avec Dieu, quand j'ai connu Dieu, j'étais tout feu, tout flamme, c'est ce qu'on aime dire, et on a envie de crier notre joie, on explose dans notre. Tellement on est touché par le Dieu d'amour qui est, et on a envie de le crier sur tous les toits. Et quand on voit que dans l'Église, les autres ne sont pas comme cela. On peut arriver sur un terrain dangereux. La médisance. Oui, l'autre ceci, le frère ceci, la sœur, je vois que, etc. Et l'Église ne prie pas assez, c'est pas normal, et on commence à médire. Au début, d'une certaine manière, on voit certaines choses de la bonne manière, mais ça se tourne en péché, puisqu'on commence à être dans la médisance. Et je me rappellerai toujours de ma mère qui vient derrière nous, parce que j'étais
pas le seul, j'étais avec mes frangins et tout.
Là, oui, on veut voir le réveil dans l'église. On veut que tout le monde se soulève pour Christ. Mais on voit que les gens sont endormis, etc. Calmez-vous.
Amen.
Calmez-vous.
La meilleure attitude à avoir quand on voit cela est de prier. Et combien de fois, et j'en suis tellement triste, combien de fois j'ai vu des églises où la tendance, quand ils voyaient une personne tombée dans le péché, c'est de passer leur temps à médire.
Le frère ceci a fait ça, il a fait ci, il a fait ça.
Oh, c'est bon pour notre gloire, n'est-ce pas? On se sent mieux, hein? On se sent de meilleurs chrétiens. J'ai commis cela. Et Dieu m'a sérieusement compris.
Nous ne devons pas être ces chrétiens qui médisent sur les autres.
Quand nous voyons un frère ou une sœur péché, nous devons être dans la prière, dans l'amour, dans la compassion, dans un désir de voir notre frère et notre sœur se relever.
Mais tout en œuvre, prière, aujourd'hui, demain, toute l'année, je ne compte pas, je prie pour mon frère et ma sœur qui est tombé dans le péché parce que je l'aime.
Et je ne médirai jamais sur cette personne parce que si elle est là où elle est, il y a certainement souffrance, difficulté.
Vous croyez que les gens qui tombent dans le péché le font exprès?
Pas tout le temps.
Mais
pas tout le temps. J'entends souvent des gens qui étaient dans le péché, qui ont été sérieusement repris, peut-être par leur frère, leur soeur, ou qui sont après sortis de l'église. Ils sont écrasés sous le poids de leur péché. J'entendais des gens, en fait, qui souffraient. Pas juste des gens qui se plaisaient à pécher, mais qui véritablement avaient des souffrances. Combien nous devons être cette église qui pleure sur ceux qui se perdent, qui pleure sur ceux qui partent loin de Dieu. Que faisons tout pour que celui qui s'égare de la foi revienne à Dieu. Et là, c'est très touchant ce que Jacques nous dit. Sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait le sauvera de la mort. C'est terrible.
Où il s'égarait, il le sauvera. Donc aussi, il permettra le pardon d'un grand nombre de péchés.
Jacques nous invite à la joie de la libération, de la délivrance d'une personne qui s'est égarée.
Dis, regardez, c'est génial. Donc, soyons dans le combat, les amis. Soyons dans le combat.
Et Satan fera tout pour que nous soyons dans la non-compassion, la médisance, la dureté de cœur, balançant les vérités bibliques comme ça dans la tête des gens, sans compassion. Dieu ne veut pas cela. Oui, nous devons dire la vérité, mais avec tellement d'amour, tellement de pincettes, tellement de j'arrive avec ce dernier sujet qui remonte au verset 16, qui pour moi est la cerise sur le gâteau. Jacques me donne un encouragement qui est tellement énorme, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Comment expérimenter la puissance de Dieu dans nos épreuves, prier dans ces différents domaines, mais surtout, prier avec insistance. Voici ce qu'il dit. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Amen. Élie était un homme tout à fait semblable à nous.
Ah bon?
Ah bon? Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol.
3 ans et demi, tout ça. Quel exaucement énorme.
Il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie. Et la terre produisit ses récoltes. Et si Jacques donne cette fin, c'est pour dire, Dieu donne la bénédiction. Dieu donne la bénédiction. S'il y a bien une prière qu'on va chercher, si on cherche dans la Bible,
oppressé, opprimé, persécuté, dans la souffrance. On peut voir l'action de Dieu dans notre vie. On peut voir Dieu agir et on peut perdre espoir dans le fait que Dieu puisse agir dans notre situation. Et Jacques nous rapporte Élie qui lui a fait une prière extraordinaire. Vous voulez voir l'œuvre de Dieu? Élie, regardez, il a fait ça. Il est un homme comme nous. Vous pouvez prier de cette manière et voir Dieu agir de manière extraordinaire dans votre situation. Demandez, insistez. Dieu veut agir. Et là, deux choses qu'il nous faut pour prier et avoir un tel exaucement. La foi, puisque là, c'est très clair, il était comme nous, il a eu cet exaucement. Croyez que Dieu peut agir dans vos situations, la foi. Deuxième chose, la prière du juste. Ce n'est pas la prière de celui qui vit dans le péché, qui n'en a rien à faire de Dieu. Ou qu'il y a un chrétien du dimanche qui vient, qui chausse sa chaise, et puis toute la semaine qui vit comme il veut. Mais c'est quelqu'un qui est soumis à Dieu, qui lit la Bible, la parole de Dieu, qui cherche à la mettre en pratique. Quand il tombe, il se relève et demande pardon pour ses péchés. Il fait tout son possible pour se maintenir dans une relation profonde avec Dieu. Cette personne-là aura ses prières exaucées. On ne parle pas ici de mériter l'exaucement. De personnes tout simplement qui sont soumises à Dieu, qui disent à Dieu, tu es mon maître, tu es mon Dieu, tu es mon roi, je te laisse toute la place et je vais vivre pour toi. Quand on dit juste, c'est aussi de ne pas avoir des prières égoïstes, mais prier selon la volonté de Dieu. Et je vous invite à finir avec cela, des prières insistantes. Il est dit, il pria avec insistance. Il n'a pas juste prié comme ça, ben voilà, Dieu, est-ce que tu peux faire ça, et puis boum. Ça dit qu'il a prié avec insistance. Et ça, c'est mon problème, ça. Je ne sais pas si c'est le vôtre, mais ça, c'est mon problème. Je veux tellement que Dieu réponde tout de suite. Je prie une fois, deux fois, et Dieu est censé répondre tout de suite. Elle est tellement dans cette génération de tout de suite. Hein? Au quick, au McDo, Internet. Dieu, tac, boum! Je sais pas, on a besoin de ça pour la maison. Boum! Waouh! Il est extraordinaire ce Dieu. J'avais déjà dit ici, si Dieu répondait comme cela, on serait des enfants gâtés. Et Dieu ne serait plus Dieu. C'est nous. On agirait comme Dieu. J'ai demandé quelque chose et il est à mon service. Dieu n'est pas notre pote. Dieu est bien plus énorme, grand, puissant que nous pouvons l'imaginer. Quand on regarde les étoiles, le ciel, on s'y perd. On se dit, mais qui est Dieu? Qui suis-je devant ce Dieu qui est si puissant, si redoutable? Dieu nous invite à prier avec insistance. Élie a prié, prié, prié et prié. Est-ce que nous prions vraiment de cette manière jusqu'à voir Dieu agir dans notre situation? Jusqu'à voir Dieu agir, avoir des prières incessantes devant Dieu, crier à Dieu jusqu'à voir le miracle dans notre vie. Sommes-nous ces personnes qui demandons, qui prions, qui cherchons la face de Dieu jusqu'à voir Dieu rétablir notre situation pour sa gloire? Nous, mes amis, nous devons apprendre à prier vraiment. Prier jusqu'à voir Dieu agir de manière puissante. Croire dans les promesses de Dieu. Prier pour une chose précise plusieurs fois aujourd'hui, puis plusieurs fois demain, plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans le mois, jusqu'à que. J'avais entendu une femme et ça, elle disait, frère, soyons des jusqu'à que, ça fait bizarre de dire ça, mais dans le sens de prier jusqu'à que Dieu agisse. Nous ne prions pas ainsi pour obtenir une Porsche, pour obtenir une plus grande maison ou être dans un plus grand confort, mais nous prions ainsi pour voir l'œuvre de Dieu dans nos souffrances, dans nos faiblesses, pour voir la puissance de Dieu dans nos vies, pour que nous soyons comme Christ, pour que nous ressemblions à Dieu dans notre manière d'être et de vivre. Je vais finir en disant ceci. Dans cette période d'attentat, de persécution, les chrétiens qui ne cessent d'augmenter, nous devons apprendre à combattre dans la prière. Trouver la force dont nous avons besoin dans la prière. Vivre des victoires face au péché qui nous enveloppe si facilement accomplisse toute sa volonté dans ce monde, pour que nous grandissions en sainteté, pour que l'Église de soir puisse grandir en amour, pour que des milliers de personnes rencontrent Jésus-Christ, pour que nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi expérimentent la présence de Dieu, qui soit plein de courage, de force, de foi. Nous prions avec sa assistance pour que Dieu agisse, pour que la chorale de soir ou les flambeaux soient utilisés par Dieu pour vivre des miracles de conversion, de voir des gens se donner à Christ, pour que des enfants s'engagent à suivre Dieu toute leur vie. Nous prions avec insistance pour voir des miracles dans la vie de ceux qui souffrent de solitude, de ceux qui souffrent à cause de difficultés dans leur vie de couple, pour des familles brisées, etc. Nous prions avec insistance. Qu'est-ce que nous voulons? Normalement, si je disais maintenant prions, normalement, l'Église de Dieu devrait être en train de prier à fond, parce qu'elle s'attend à l'œuvre de Dieu, elle croit dans l'œuvre de Dieu. Combien nos prières sont faibles à ce niveau? Combien notre foi est faible? Je vais conclure. Jacques a dit: quand je souffre, je dois prier. Quand je suis dans la joie, je dois louer Dieu. Quand je suis totalement découragé ou totalement affaibli par la maladie, je dois demander la prière des responsables de l'Église. Quand je n'arrive pas à m'en sortir dans une lutte contre le péché, je dois demander à une personne de confiance de prier avec moi et moi-même prier aussi pour ceux qui luttent, et en particulier pour ceux qui s'égarent de la foi, pour expérimenter la puissance de Dieu dans nos épreuves. Ce temps de la fin, nous devons prier, prier, prier. Toute victoire sera remportée par la prière. Mes amis, soyons une église qui prie avec insistance pour voir Dieu agir puissamment avant le retour de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Dieu notre Père, pardon de ne pas être tout le temps dans cette vie de prière insistante, persévérante, qui te cherche et crie à toi sans cesse pour te voir agir. Nous voulons prendre ensemble la décision, cette décision importante de nous mettre debout pour toi. Nous voulons être une église qui prie avec ferveur, avec foi. Touche nos cœurs, transforme-nous, enlève-nous tout orgueil, tout égoïsme. Sois le centre de nos vies. Nous attendons à toi que dès maintenant, notre vie de prière ne soit plus la même. Que notre intimité avec toi soit plus profonde. Et que dans les semaines qui viennent, je puisse entendre plusieurs se réjouir, et moi aussi me réjouir, de ton œuvre, par des exaucements à nos prières.